Alors, je veux pas savoir, mais vous avez fait des vœux, à part ce matin, vous êtes souhaité une bonne année, etc. Mais vous, personnellement, est-ce que vous êtes dit le 1er janvier, bon, cette année, oh, vous n'avez pas d'ambition, hein? Hein, l'idée, ah tiens, cette année, ben, je voudrais réussir ça, je voudrais changer ça, je voudrais. C'est toujours intéressant. C'est bizarre d'ailleurs, on attend le 1er janvier. On pourrait faire ça le 12 février, on pourrait faire ça le 35 mars, n'importe quand. Hein. On pourrait faire ça quand on veut finalement. Alors, j'ai évidemment, c'était l'occasion rêvée, j'ai choisi un homme dans la Bible qui a fait un vœu. Et on va voir dans quelles conditions il a fait ce vœu et quel était l'intérêt de faire ce vœu et pourquoi est-ce qu'il a fait ce vœu à ce moment-là. Est-ce que vous voulez aller avec moi dans le livre de la Genèse, si vous avez une Bible avec vous? Dans le livre de la Genèse, c'est au chapitre 28 que je voudrais lire trois versets, les versets 20, 21 et 22. Mais en fait, on reviendra sur tout le chapitre 28, parce qu'il va étayer les quelques points que nous allons aborder ensemble. C'est Jacob, cet homme de la Bible qui s'appelle Jacob, qui a fait un vœu. Et nous le trouvons donc dans le livre de la Genèse, chapitre 28, verset 20. C'est écrit comme ça d'ailleurs. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi, et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. C'est le moment de faire des vœux. Alors quand on fait un vœu, en général, j'imagine, hein, on ne commence pas en disant si. Non? Ça fait un peu drôle, hein, si. Ça fait un peu marchandage, vous ne trouvez pas? Ah, moi, je veux bien t'aimer, mais il faut que tu sois gentil avec moi. Hein. Si tu m'aimes, je t'aimerai. Hein. C'est un peu bizarre. Hein. Et là, Seigneur, si tu ne m'oublies pas, je veux peut-être ne pas t'oublier. C'est un peu ça que ça veut dire. Hein. Si tu penses à moi, je réfléchirai sérieusement à la question de savoir si tu mérites d'être mon Dieu ou pas. Alors, évidemment, il y a tout un contexte à la remarque de Jacob et je reviens sur l'idée que on est ouais, c'est le premier dimanche de cette année 2020, ce sont les premiers jours de janvier. C'est l'occasion, pourquoi pas, de se dire un nouveau départ, une nouvelle vie. Il faut que les choses changent. Je voudrais que tel problème soit résolu. Vous avez remarqué d'ailleurs, si vous l'avez pris ce matin, sinon vous l'avez sur le Philadelphia, l'édito, un virage à 180. Si c'était possible que quelque chose change cette année, ce serait formidable. Et au lieu de dire si c'était possible, on va dire je veux que ça arrive, je veux qu'il se passe quelque chose, il faut qu'il se passe quelque chose. Alors, ça peut être un prétexte, c'est juste un prétexte le fait qu'on soit en début d'année, parce que n'importe quand, on peut démarrer une nouvelle vie par la grâce de Dieu si on lui demande son aide et son secours. Donc, utilisons ce prétexte, comme Jacob, pour dire il faut que les choses changent. Finalement, même si c'est un prétexte, si c'est un vœu pieux, pourquoi pas, hein, après tout. Parce que si c'est pour, je ne sais pas, gagner le loto, bof. Si c'est pour qu'il fasse beau toute l'année, bof, ce n'est pas ça l'essentiel. Mais là, c'est un vœu pieux. Il y a vraiment l'intention de s'approcher de Dieu, de faire peut-être un pas de plus vers Dieu. Et j'ai presque envie de dire qu'on reprochera à personne d'avoir fait un vœu. Si l'élan est sincère, on a envie de dire, eh ben, tant mieux, il vaut mieux qu'il le fasse, plutôt qu'il ne dise rien, plutôt qu'il n'offre rien. Même si c'est l'élan d'un instant, ben, ça aura eu le mérite d'exister. Et puis on ne sait pas, peut-être que ça va éveiller quelque chose chez cette personne-là. Il paraît que cette année, ils ont eu beaucoup de mal à mettre en place le mois sec. Et c'est quoi le mois sec? C'est un mois sans alcool. Ils ont eu beaucoup de mal. Le mois sans tabac, c'est au mois de novembre, je crois, ça s'installe. Hein. Mais alors, le mois de janvier sans boire, sous-entendu, vous avez bien bu en décembre, donc c'est pas grave si vous abstenez un petit peu en janvier. Et là, on a du mal quand même, hein. Vous avez tous les viticulteurs qui râlent, forcément, il y a un marché derrière. Bon, c'est sûr que ce serait peut-être bien. Alors, c'est un élan, et certains disent, non, 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 moi je suis pas pour. Mais quelquefois, on a de bons élans. Et même si on ne tient pas la distance, on a quand même eu cet élan-là, et rien ne dit qu'on pourra toujours en avoir un. Du même acabit l'année d'après, et puis on tiendra plus longtemps, et puis peut-être quelques temps plus tard, on y reviendra. Bref, tant que la décision est juste, tant que la décision que l'on sait juste derrière ce vœu, même s'il n'y a pas une réelle motivation, ça a le mérite d'exister. Par contre, ce qu'il faut comprendre dans l'histoire de Jacob, c'est que changer avec Dieu, ça n'a rien d'utopique. Changer avec Dieu. Et derrière la prière de Jacob, il y a finalement un projet beaucoup plus lointain qui sera celui de Dieu de faire changer Jacob. La volonté de Dieu, c'est que cet homme change. Je crois que on a fait le tour de la question en ce qui concerne les améliorations, non? Vous avez essayé de vous améliorer. Qu'est-ce que ça a donné? On a fait le tour de la question. Hein. À un moment donné, on comprend qu'il ne faut pas s'améliorer. Il faudrait changer. Mais changer, c'est pas donné, certains le pensent, à tout le monde. Mais en tous les cas, c'est pas vain, c'est pas inutile de désirer changer avec Dieu. Regardez cette petite histoire dans l'évangile de Matthieu. Peut-être que ça va vous rappeler quelque chose. Évangile de Matthieu, chapitre 21. Écoutez donc, verset 28. Que vous ensemble, un homme avait deux fils. Et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Et il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. Il s'adressa à l'autre et dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien. Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Et tous ceux qui étaient là ont répondu, ben le premier, hein. Parce que ce qui compte, ce n'est pas ce que l'un et l'autre ont dit avec leur bouche. C'est ce qu'ils ont fait. Et finalement, quelquefois, avec Dieu, c'est un petit peu la même chose. Dieu nous interpellerait. Dieu vient vers nous, il frappe à notre porte et on dit, d'accord. Et puis on ne fait pas. Il vaut mieux dire, non, j'en veux pas. Et puis après, être repris dans sa conscience et dire, non, mais dans le fond, il faut vraiment que je le fasse. Ça, c'est bon. Alors, vous avez le choix cet après-midi, soit vous serez l'un, soit vous serez l'autre. Forcément. Ou on est l'un, ou on est l'autre. Remarquez, on peut être la synthèse des deux, quelqu'un qui dira oui, je veux, et qui le fait. Mais ça, c'est le plan parfait. Mais en attendant, s'il y avait quelques réticences, et on va le voir avec Jacob, ça a marché pour Jacob. Dieu a été son Dieu. Et quand on voit comment les choses ont commencé, c'est assez incroyable. C'est assez incroyable. Tout d'abord, dans l'histoire de Jacob, il y a eu les mauvais choix. Vous le savez comme moi, les mauvais choix entraînent toujours la déception. C'est pas vrai? Ça vous est jamais arrivé d'acheter quelque chose et le soir même ou le lendemain de vous mordre les doigts en disant eh, j'aurais pas dû. Mauvais choix, mauvais choix. Bon, ça vous est peut-être arrivé souvent ou peut-être guère, mais ça peut arriver. Et Jacob, il en a fait des mauvais choix. On peut lire à partir du verset premier, toujours de ce chapitre 28, Isaac appela Jacob, le bénit, et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan, lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger, et qu'il a donné à Abraham. Et Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padan Aram, auprès de Laban, fils de Bethuel, l'Araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob, et qu'il l'avait envoyé à Padan Aram, pour y prendre une femme, et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre, tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère qu'il était parti pour Padan Aram. Et Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac, son père. Et Ésaü s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Mahalath, fille d'Ismaël, fils d'Abraham et sœur de Nébajoth. Amen. Les mauvais choix. On retrouve deux frères, c'est comme si le papa, ça rappelle l'histoire de l'évangile de Matthieu, c'est comme si le père avait dit aux deux, faites ceci. Il y en a un qui dit non et l'autre qui dit oui. Bon, là, précisément, ils ont fait ce qu'ils avaient dit. N'empêche que, si Jacob s'en va, vous croyez qu'il s'en va de bonne grâce? Vous croyez qu'il a vraiment envie d'obéir à son père? Qu'il a vraiment envie de partir? Moi, je ne crois pas. Je pense que ce qui le motive un petit peu, c'est que son frère veut le tuer. Il faut reconnaître que c'est motivant, hein? Non? Si vous voulez vivre l'année prochaine et que quelqu'un veut vous tuer, ben il vaut mieux s'en aller, hein? Alors il s'en va, évidemment, il s'en va. Et on comprend derrière cette histoire que c'est quand même une page qui va se tourner. Jacob, depuis qu'il est né, il est étonnant, il est étrange, peut-être devrait-on dire, depuis qu'il est né, il est surprenant dans ses réactions. C'est un garçon qui apparemment cherche les choses de Dieu, aime les choses de Dieu, mais il ne sait pas comment les prendre. Et comme elles ne lui sont pas offertes facilement, ben, il trouve des moyens pour les obtenir. C'est ainsi qu'il va voler principalement son frère, c'est pour ça que son frère veut le tuer. Il va voler principalement son frère par deux fois. Premièrement, un droit d'aînesse qui donnait un avantage sur l'héritage, l'autorité dans la maison, une fois que le papa serait décédé. Donc ça donnait un avantage certain, voire au double de ce que les autres posséderaient. Et puis ensuite, la bénédiction. La chose ultime, spirituelle, qui descend directement de Dieu. Même cela, il va la lui voler. Alors, dans cette entreprise, il ne va pas être seul, malheureusement, parce que sa mère va l'aider à arriver à ses fins. C'est un petit peu terrible, quand même, d'imaginer cela. N'empêche que, il a trahi son frère, il a menti à son père, Il s'est déguisé, il a été malhonnête, et bien maintenant, la seule solution, c'est de partir. Il faut quand même reconnaître que bien souvent, les mauvais choix nous obligeront un jour ou l'autre à tourner la page. Parce que si vous ne tournez pas la page, ça va vous empoisonner jusqu'à la mort. Hein. Ben oui, ça va vous empoisonner jusqu'à la mort. Seulement, c'est pas évident de tourner la page. Et puis, il ne s'agit pas de dire, bon, je tourne la page, et puis comme ça, j'ai une belle page blanche, et je vais recommencer à faire tout et n'importe quoi. Non. Le problème, c'est que sur la page qui est là, ouverte pour lui, ben, tout est griffonné, tout est gribouillé, c'est sale, c'est taché. Bref, ce qu'il a fait n'est pas bon. Il préférait ne pas avoir ça devant ses yeux. Et quand sa maman lui dit, écoute, va dans la famille de ton oncle, ce sera mieux, tu auras un avenir là-bas, etc., etc., ben, il se décide quand même parce qu'il ne voit pas d'autre issue, finalement. Vous savez, ce qu'il y a d'assez extraordinaire, c'est que la faveur de Dieu fait que même quand on n'a pas d'issue, Dieu est encore capable de nous offrir une issue. Même quand tout est noir, même quand il n'y a pas de solution, même quand humainement, Jacob, il n'est pas prêt d'aller se réconcilier avec son frère. S'il décide d'aller trouver son frère Ésaü, je pense qu'il n'aura pas le temps de parler pendant 10 secondes. Pas plus de 10 secondes. Ça va mal finir pour lui. Il a la haine, son frère. Son frère a été dépossédé. On a du mal à l'imaginer, mais aujourd'hui, on le voit bien. Il y a des gens qui sont capables de s'entretuer pour un héritage. Pour peu que l'un ait été déshérité par l'autre. Mais alors, et puis, il y a eu des meurtres. C'est arrivé, donc on n'invente rien. Il sait très bien qu'il ne va pas blanchir la page, il ne va pas régler l'histoire comme ça. C'est impossible. Le seul moyen de commencer une nouvelle vie, c'est de s'en aller. Sauf que, s'en aller en laissant des casseroles derrière, ce n'est pas forcément idéal. S'en aller en disant, je tourne la page et puis comme ça, ça ira mieux. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Jacob a raté le commencement. Si vous voulez, je ne sais pas moi, construire quelque chose et que vous ratez le commencement, vous n'y arriverez pas. Même si vous acharnés, même si vous êtes têtus, même si vous dites non, non, j'y arriverai, à la fin il vous restera quatre boulons, vous essaierez de les mettre quelque part, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a quelque chose qui a été raté au départ et on ne peut pas refaire, ou alors il faut revenir avant le départ. Mais comment est-ce qu'il va faire? Comment est-ce qu'il peut revenir avant le départ? C'est fini maintenant, la course s'est lancée, il ne peut pas revenir. Je m'aperçois que quand il s'en va, il est tout seul, seul dans sa fuite. Il doit quitter sa maison. Il a grandi là, il a vécu là, il n'a jamais vécu ailleurs. Et ce n'est pas de bonne grâce, vous l'avez compris, ce n'est pas un aventurier, il ne veut pas s'en aller. D'ailleurs, la Bible dit que son frère, lui, passait son temps dans les campagnes, toujours en extérieur, et lui, par contre, il était tout le temps à la maison. Donc ce n'est pas quelqu'un qui a envie de voyager, certainement pas. Sauf qu'il est coincé, il ne peut pas faire autrement. Je me dis quand même, quand quelqu'un rate son commencement, le commencement de sa vie, et qu'il se retrouve à un moment donné seul, et toujours à fuir, quittant ses repères, menacé de mort par des gens de notre propre famille, et puis s'enfoncer vers l'inconnu, on peut mieux commencer sa vie quand même. Hein. Alors qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Il n'a absolument aucune idée de comment les choses peuvent évoluer. J'ai envie de dire que le premier chapitre de sa vie a été raté, mais c'est ainsi. Et puis après la déception de ces mauvais choix, arrive une découverte incroyable. Ça lui tombe dessus comme ça. Il ne pouvait pas s'y attendre. Et c'est la suite du texte qui nous le dit, du verset 10 au verset 15. Jacob partit de Beersheba, et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touché au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. » C'est ce que son papa lui avait dit, hein. C'est ce que son père lui avait dit dans la bénédiction. C'est redit par Dieu lui-même. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'Occident, à l'Orient, au Nord, au Midi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Amen. C'est pas une découverte, ça? C'est un fuyard, c'est un fugitif. C'est quelqu'un, s'il fait le bilan, ben il peut rien mettre à son compte favorablement. C'est noir, c'est sale, c'est bâclé, c'est mal fait, c'est malhonnête. Et d'un coup, tombe sur lui une faveur complètement imméritée de Dieu. Quant à son avenir, complètement immérité. Il ne méritait rien de tout ce que Dieu est en train de lui dire. Je serai avec toi, je te protégerai, je te bénirai, tu posséderas tout le pays. C'est un voleur, c'est un menteur, c'est un arnaqueur. Et Dieu lui dit cela, à lui. Même pas de l'autre consolation pour son frère. C'est à lui que les choses sont données. Tout à l'heure, je vous disais en commençant, il est assez énigmatique, Jacob. Parce que la Bible nous dit que c'est quelqu'un qui aimait les choses de Dieu, à la différence de son frère. Son frère ne les aimait pas, les choses de Dieu. Son frère est considéré comme un profane. Ça ne l'intéresse pas, il ne cherche même pas à comprendre. Il est plutôt terre à terre, il aime les choses de la terre. Les choses spirituelles, ça lui passe complètement au-dessus de la tête. Il n'en veut même pas. Sauf que quand on les lui enlève, là il se met en colère, évidemment. Mais il n'en veut pas. Jacob, il en veut. Il ne sait pas comment faire. Et Dieu vient vers lui, Dieu l'encourage, Dieu est là pour le bénir. Et je trouve que c'est quand même assez remarquable. Cette première nuit, à la belle étoile, hein, va lui rappeler finalement qu'il était né avec des privilèges, finalement. Il était né avec des privilèges. Faut-il rappeler que la vie est un don de Dieu? C'est un don de Dieu. Certains vous diront, mauvaise pioche, certainement, vu ce que j'ai vécu, etc., etc., ça reste privilège d'être d'être vivant, d'être là cet après-midi. Ça reste un privilège, évidemment. Et puis, cette découverte qu'il va faire, c'est que Dieu le laisse libre de ses choix. Dieu le laisse libre. Il n'y a pas un seul reproche de Dieu dans ce texte. Je pense qu'il y avait des choses à dire, hein. Non ? Il y avait des choses à dire, hein. Quand on convoque quelqu'un, quand un patron convoque un ouvrier, quand un prof convoque un élève, quand on convoque, c'est pour dire des choses, hein. Et en général, c'est pour reprendre, reprocher, certainement. Là, il n'y a pas un reproche, mais c'est un rendez-vous. Convocation, c'est un rendez-vous. Dieu veut parler à Jacob. Jacob a rendez-vous avec Dieu. Ça va tout de même interpeller cet homme qui va s'éveiller de son sommeil parce qu'il a entendu la voix de Dieu sans aucun doute. Il a rêvé. Ce qu'il a rêvé, c'est comme si c'était réel pour lui. Il a entendu la voix de Dieu. Et dès qu'il se réveille, il est rempli de peur et de crainte. Mais c'est normal. Dieu, il ne le connaît pas. Il ne sait pas qui c'est. A-t-il déjà entendu une fois sa voix ? En tous les cas, il aurait bien aimé connaître la voix de Dieu sans aucun doute. Mais il l'apprend ce jour-là qu'il est libre de ses décisions et que Dieu ne le freinera pas. Dieu ne l'arrêtera pas pendant un bon moment et que Dieu jusqu'à présent ne l'avait pas freiné. Vous ne croyez pas que Dieu aurait pu arrêter Jacob quand Jacob se déguise, prend le plat que sa maman a cuisiné, alors que Ésaü est encore dehors en train de chasser le gibier, donne ça à son fils en disant « Va vers ton père et dis-lui que tu es ton frère ». Vous ne croyez pas que Dieu aurait pu l'arrêter à ce moment-là ? Il se prend les pieds dans le tapis, le plat tombe par terre, immangeable, le vêtement tombe, la perruque tombe, il se met en colère, le papa reconnaît la voix parce qu'il ne voyait plus trop, reconnaît la voix, je ne sais pas, il aurait pu se casser une jambe, il aurait pu être muet, il aurait pu être paralysé. Dieu pouvait tout faire pour l'arrêter, il l'a laissé faire. Il l'a laissé faire. Le nombre de fois où Dieu aurait dû nous arrêter, où il aurait pu nous arrêter, et cependant il nous a laissé faire, ça pourrait se compter en centaines de fois certainement, centaines de fois. Et pourquoi Dieu le laisse faire ? Pour que Jacob comprenne que tout ce qui lui arrive, c'est de sa propre faute. Ce n'est pas de la faute des autres, ce n'est pas de la faute de Dieu, ce n'est pas de la faute de ses parents, c'est de sa faute, c'est de sa faute. Dans une certaine mesure, même si on comprend que dans l'éducation, il y a eu des choses un petit peu particulières, bizarres, n'empêche que il est coincé parce qu'il ne peut rien reprocher à Dieu. Il a été libre de ses choix, il a pris des décisions qui l'ont amené dans cette impasse et maintenant, tu t'enfuis, tu ne peux rien faire d'autre. Et c'est précisément ce moment que Dieu choisit pour se révéler à lui. En fait, Dieu pourrait très bien lui dire, tu sais Jacob, les bonnes intentions, ça ne suffit pas. Tu veux me connaître, tu veux être béni, tu voles, tu mens, tu triches, mais ça ne marche pas. Quoi. Les bonnes intentions, ça ne suffit pas. Avec des bonnes intentions, on ne pardonne pas tout. Hein. Quelquefois, les enfants ont fait une bêtise et pour demander pardon, ils vous ont repeint le salon. C'était pire après qu'avant. Et là, vous dites, mais pourquoi tu as fait ça ? Ou ils vous ont fait la vaisselle, aïe aïe aïe, il faut tout refaire. Ils voulaient demander pardon, ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient. Ça n'a pas fonctionné. Il s'agit là précisément de comprendre que ce que Jacob doit saisir, c'est que pour plaire à Dieu, il ne faut pas avoir de bonnes intentions, il faut obéir. Ce qu'il n'a pas fait jusqu'à maintenant. Il faut juste obéir. Ce qu'il va être amené à faire. Cependant, et ça aussi c'est quand même assez exceptionnel, il découvre que Dieu ne l'a pas oublié, que Dieu ne l'a pas zappé. C'est dur d'entendre des gens vous dire que Dieu ne pense pas à eux, que Dieu les a oubliés. C'est difficile à entendre cela. Dieu n'a pas zappé, il n'a pas oublié Jacob. Dieu l'aime, Dieu veut le protéger. En fait, Dieu a un plan pour sa vie et c'est sans doute parce que cette nuit, elle devait être drôlement triste pour lui. C'est comme si il lève les cieux avant de s'endormir parce qu'il dort à la belle étoile, hein. Il a pris une pierre pour faire oreiller. Il peut regarder le ciel. J'imagine que la nuit, elle est d'encre, elle est noire. Il n'y a pas la lune. Hein. Sauf que c'est peut-être quand il fait le plus sombre que les étoiles brilleront le mieux, sans doute, si le ciel est bien dégagé. Et nous, on le sait ici. Hein, il y a les nuits des étoiles. Hein, et on sait très bien qu'à ce moment-là, on pourrait en voir tant, tant, tant. Je crois que Jacob avait besoin de toucher le fond. pour être capable d'entendre au moins ce que Dieu avait à lui dire. C'est souvent comme ça. Pourquoi faut-il attendre de toucher le fond ? Mais ça, c'est la bonne découverte. Il a découvert que, oui, il a plein de choses à se reprocher, et tu t'enfuis, et de quoi sera fait ton avenir, t'en sais rien. Tu t'enfonces dans la nuit et dans l'inconnu, mais dans cette nuit-là, une étoile brillera, Dieu te guidera, Dieu sera avec toi, Dieu prendra soin de toi, il te bénira. Et puis, après ces découvertes, il a bien fallu s'engager. Au verset 16, Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit « Certainement, l'Éternel est dans ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Et il eut peur. Il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument. Il versa de l'huile sur son sommet. Et il donna à ce lieu le nom de Bethel, la maison de Dieu. Et c'est là que Jacob fit un vœu en disant « Si Dieu est avec moi, s'il me ramène, s'il me bénit, s'il me donne à manger, s'il me donne des habits, et si je retourne en paix dans la maison de mon père, si mon frère oublie toutes les vexations, etc., etc., alors il sera mon Dieu. » Après la déception, après les choix, la déception, après la déception, la découverte, après les découvertes, la découverte, eh bien il faut s'engager, il faut s'engager. Il y a eu un soir et il y a eu un matin, vous avez remarqué. C'est-à-dire qu'il se couche le soir, ça ne va pas. Il se réveille le matin, il est rempli de crainte parce qu'il ne connaît pas Dieu. Mais il y a un espoir, Dieu lui a parlé. Et il va s'en aller quand même pendant 20 ans. 20 ans. Et vous allez le retrouver 20 ans plus tard, pas très loin de cet endroit-là, sur le chemin du retour. Et cette fois-ci, il y aura encore un soir et encore un matin. Il y aura encore une nuit et il y aura encore un matin. Mais ce qu'il y a d'assez incroyable, c'est que cette fois-ci, finalement, il se dit « J'espère que Dieu sera avec moi. » Et 20 ans plus tard, Dieu a été avec lui. Mais Jacob, il en manque encore un petit peu parce que Jacob n'a pas changé. Le problème de Jacob, c'est sa personnalité, c'est ce qu'il est, c'est ce qu'il est. C'est quelqu'un qui veut toujours, d'une manière ou d'une autre, arriver à ses fins, il veut s'en sortir par lui-même. En fait, son pire ennemi, c'est lui-même. J'en connais pas mal comme ça. Leur pire ennemi, c'est eux-mêmes. La colère, le caractère, l'impulsivité, ou alors cette espèce de nonchalance. Le caractère, la personnalité, quelquefois, peut devenir un ennemi contre soi-même. Et Jacob a affronté des batailles parce que quand il s'en est allé pendant ses 20 ans, vous savez quoi ? Il s'est fait rouler lui aussi. Parce que pendant un moment, il a roulé les autres. Mais il fallait bien que la roue tourne. Hein ? Et la roue a bien tourné. À un moment donné, il s'est fait avoir lui-même. Et quand il s'est fait avoir, ben, il a compris que ça ne faisait pas plaisir de se faire avoir. Il a dû imaginer son frère Ésaü à qui il avait volé le droit d'aînesse, à qui il avait volé la bénédiction. Il a dû réfléchir à cela en disant « Mais c'est injuste ce qu'on m'a fait parce qu'on lui a fait subir des injustices à lui aussi. On ne lui a pas dit toute la vérité. Ce n'était pas vraiment un mensonge. Mais on n'avait pas tout dit dans le contrat. Et il s'est fait avoir, lui aussi. Mais lui a fait la même chose. Il n'y a que quelquefois quand on subit les mêmes choses qu'on peut apprécier à sa juste valeur, le tort que l'on a fait aux autres. Et ça, il ne l'avait pas bien compris, lui, il ne l'avait pas bien saisi. D'ailleurs, quand Dieu l'interpelle au bout de 20 ans, et Dieu lui dit, maintenant, je pense qu'il faut que tu rentres à la maison, faut que tu fasses le chemin inverse, la bénédiction d'il y a 20 ans, elle doit s'accomplir maintenant. Il est d'accord de s'en aller, mais il ne trouve rien d'autre que de s'enfuir à nouveau et de faire ça rapidement, en secret, sans en parler à son beau-père. Même ça, il n'est pas capable de se quitter en bon terme. Il est bizarre quand même. Il y a des choses qui ne vont pas en lui. En fait, ça me fait penser à tous ces gens qui cherchent à s'améliorer, alors que s'améliorer, ça ne sert à rien. Il faut changer. Et on ne peut pas changer simplement en espérant s'améliorer, parce que la Bible dit qu'il y a tout un tas de penchants qui sont liés à notre nature et on ne peut pas s'en débarrasser. Le seul moyen que Dieu pourrait nous donner pour nous en débarrasser, c'est de mourir pour renaître, la nouvelle naissance. C'est le seul moyen. Sauf que lui, il n'a pas envie de mourir. Il veut juste s'améliorer. Et Dieu lui dit, non, il faut que tu meures. Mais comment mourir? Mais j'ai une idée, tu vas rentrer à la maison, tu vas retourner voir ton frère Ésaü, ça devrait se faire sans problème. Je ne sais pas s'il lui a dit comme ça, mais il lui dit de rentrer à la maison, d'aller se confronter à ses faillites, d'aller se confronter à ses torts, d'aller se confronter à ses mensonges, d'aller se confronter à sa mauvaise attitude, d'aller se confronter à cela. Alors il fait chemin inverse, et il repart, et là, on va le retrouver un peu plus tard, au chapitre 32, et dans une nuit, je vous le cite, il va lutter contre Dieu. Voilà qu'un homme vient, un inconnu, il ne sait pas qui c'est, va livrer bataille contre Jacob. Il va se battre avec Jacob. Je ne sais pas comment on peut imaginer ça, mais on peut imaginer que Jacob, paisiblement, est presque arrivé à la maison et tout le camp dort, et voilà que quelqu'un arrive, se jette sur lui et commence à le frapper à coups de poing, à coups de pied. Et Jacob, il se défend. Et c'est un pugilat. Ils ont lutté l'un avec l'autre. Et comme deux forces presque égales, l'un n'arrivait pas à terrasser l'autre. C'est assez phénoménal d'imaginer qu'on n'arrivait pas à mettre Jacob par terre. Vous imaginez le caractère qu'il a? J'ai un ami qui n'est pas grand. Plus petit que moi, pour vous dire. Hein. Vraiment pas grand. Et par contre, très nerveux. Très nerveux. Eh bien, il était capable de mettre par terre un gars d'1m80 sans problème. À coups de poing. Tellement il était nerveux. Ça décuplait ses forces. C'est incroyable, ça. Ça décuplait ses forces. Je ne sais pas comment est Jacob, mais quand même, il est hargneux, hein, Jacob. Parce qu'on ne le met pas par terre. Hein. Il n'y a rien à faire. Et ça, voyez-vous, c'est la caractéristique de sa vie. Quand on est seul à choisir, quand on décide tout seul, quand personne d'autre a raison que nous, quand on est persuadé d'avoir raison. Vous savez, ces forts caractères bien trempés qui ne cèdent jamais. Mais Jacob, si tu ne cèdes pas, tu mourras comme ça. Tu ne survivras pas. Tu peux faire toutes les prières que tu veux, tous les vœux que tu veux. Si Dieu est avec moi, s'il m'aime, s'il me fait du bien, s'il m'encourage, s'il prend soin de moi, etc., etc. Alors, je veux bien qu'il soit mon Dieu. Mais ça ne se passe pas comme ça avec Dieu. Avec Dieu, on s'humilie. Avec Dieu, on se met par terre. Avec Dieu, on demande pardon. Avec Dieu, on s'écrase. On ne la ramène pas, on ne dit rien. Avec Dieu, on demande pardon. Et il n'est pas prêt à faire cela, même pas là. Même pas dans cette ultime bataille, il est prêt à faire cela. Alors il nous est dit qu'à un moment donné, cet homme, que l'on ne connaît pas, va frapper Jacob à l'emboîture de la hanche. Choisissez gauche ou droite, comme vous voulez. En tous les cas, le coup, il était suffisamment sévère pour que ça l'ait plié, j'imagine. D'ailleurs, il restera boiteux toute sa vie. Le coup, il était sévère. C'est le seul moyen de le mettre par terre, le seul moyen de le courber. Ça a marché. Vous savez, si Dieu veut faire quelque chose, il le fait. Si Dieu veut faire quelque chose, il est tranquille, il peut le faire. Et il n'y en a pas un qui lui résistera dans la Bible. Il est bien parlé de ces hommes très forts, très grands, mais ils mourront comme des hommes. Ils veulent s'élever pour devenir des dieux, mais ça ne fonctionnera pas. Et quand Jacob voit ça, il est un peu étonné. Il demande à cet homme, « Mais qui es-tu? Dis-moi ton nom !» Et cet étranger lui dit, non, je ne te dis pas mon nom. Par contre, je te bénis aujourd'hui. Et à l'instant, il le bénit. Et ça fait tilt dans la tête et dans le cœur de Jacob. Il s'est dit, mais ce n'est pas possible. Je viens de me battre contre Dieu. Je viens de me battre contre Dieu. Il va appeler ce lieu du nom de Péniel. J'ai vu Dieu face à face. Et pour la première fois de sa vie. Et il dit, et mon âme est sauvée. Il n'avait jamais dit ça. Il avait échappé à la mort que son frère lui promettait. Il avait épargné sa vie. Il s'était sauvé pour vivre, mais il était perdu. Maintenant, il revient. Il est quasiment mort parce qu'il a pris un coup fatal, presque. Et là, il dit, « Mon âme est sauvée. » Ce que j'apprécie dans ce texte, c'est qu'on retrouve un Jacob rempli de crainte, cette fois-ci, et d'humilité. Ce n'est pas arrivé souvent. Ce qui comptait pour Jacob, c'était de repartir d'un bon pied. Mais il faudra plus de 20 ans pour cela, pour qu'il comprenne les choses. Alors, il va avoir conscience de la présence de Dieu. Ça va lui faire quelque chose. La conscience de la présence de Dieu, ça va graver une expérience dans son cœur. Déjà, 20 ans plus tôt, il avait pris la pierre qui était son oreiller, il l'avait dressée, il avait versé de l'huile dessus en disant que je me souvienne toujours de ce moment, de ce moment où Dieu m'a parlé dans un rêve. C'est la maison de Dieu. Vous pouvez aller tous les jours à la maison de Dieu sans connaître Dieu, sans jamais le voir face à face. Et il a fait ça pendant 20 ans, finalement. 20 ans plus tard, il le voit. Mais il est temps. Mais il le voit au bon moment parce qu'il est en train de rentrer à la maison. Et il ne pouvait pas rentrer dans les mêmes conditions avec lesquelles il était parti. Et puis, c'est étonnant, ces gens qui aiment bien donner des noms, mettre des mots sur des expériences. Il faut le faire, hein, mettre des mots sur des expériences. Et il le dira. La première fois, il dira, mais je suis rempli de peur, je suis rempli de crainte, ce lieu est redoutable. Mais quand là, il lutte avec Dieu, il a encore des mots à dire, mon âme est sauvée, j'ai vu Dieu face à face. Et la Bible dit qu'à partir de ce moment-là, le soleil s'est levé. Quand on est en lutte et en bataille, on est dans la nuit. On est dans la nuit. Et puis quand le soleil se lève, on est censé être sorti de la bataille. Et lui, cette fois-ci, il en sortira béni. Alors, j'imagine que si Dieu lui avait dit à ce moment-là, « Je vais te bénir, est-ce que tu es d'accord ? Je veux t'accompagner, je veux être avec toi. » Je suis persuadé qu'il aurait fait la même prière, mais il aurait enlevé tous les si. Tous les si. Si Dieu est avec moi, s'il me garde, si, si. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de conditionnel. Ce n'est pas un deal. Je donne ça à Dieu s'il me donne ça. Je veux bien croire, mais en échange, je veux ça. Ça ne marche pas comme ça. Finalement, cet homme, Jacob, a compris que Dieu était là pour le bénir, que Dieu voulait le bénir. Et que même si ça ressemblait un petit peu à un drôle de marché, Dieu connaissait le fond du cœur de Jacob. Il savait qu'il aimait les choses divines, même s'il ne savait pas comment les appréhender, comment les saisir. Il savait qu'il aimait cela. Et dans le fond, Dieu ne méprise jamais les faibles commencements. Avant d'avoir la foi, celui qui vous dira « j'ai connu Dieu, j'ai la foi », mais avant d'avoir la foi, il ne l'avait pas. Ce n'est pas inné, il ne l'avait pas. C'est quelque chose qu'il a découvert, c'est quelque chose qu'il a appris, c'est quelque chose qu'il a rencontré, une expérience qu'il a faite. Alors c'est le moment de choisir, parce qu'une fois qu'on a découvert qui était Jésus, ce qu'il avait fait à la croix, à un moment donné, il faut s'engager. Hein. Parce que si on ne s'engage pas, ça n'a que très peu d'intérêt. Il ne s'agit pas de dire « j'ai une bonne éducation, je sais tout ce qu'il faut pour aller au ciel, au moment opportun, je prendrai le ticket et comme ça je partirai ». Non, non. On ne peut pas faire ça. À un moment donné, il y a une décision à prendre et Jacob va prendre cette décision. C'est incroyable, hein ? Ça a démarré tellement mal. Ça a démarré tellement mal. Mauvais choix, déception. Déception, heureuse découverte. Découverte miraculeuse, providentielle. Et derrière toutes ces découvertes, Dieu qui lui dit « maintenant tu t'engages. Si tu ne t'engages pas, ça ne marche pas. » Et il a fallu 20 ans. Que Dieu fasse qu'il ne vous faille pas 20 ans pour vous décider cet après-midi. Ce serait 20 ans de trop, hein, 20 ans perdus. C'est maintenant qu'il faut se décider. C'est maintenant qu'il faut faire l'expérience de Jacob et dire, Seigneur, on est en début d'année, faites un vœu pieux. Faites un vœu pieux, là, maintenant. Et dites, Seigneur, je m'engage avec toi. Et le lendemain, je ne le connais pas, mais ce n'est pas grave. Et le lendemain, est-ce que j'aurai pas, est-ce que je posséderai, est-ce que je ne posséderai pas, est-ce que je serai guéri, est-ce que je serai en bonne santé, est-ce que je serai malade, c'est pas grave. Dieu le sait, l'important c'est de s'engager avec son âme, parce qu'il en va de votre éternité, et c'est maintenant qu'il faut le faire, maintenant il faut le faire, et il faut prendre la décision. Amen. On prie ensemble quelques instants. Seigneur, nous venons devant toi, nous réclamons ta grâce, et nous réclamons ta bénédiction, parce que tu es parfait, tu es merveilleux, ce que tu fais est extraordinaire, ce que tu fais est glorieux, ce que tu fais est tellement bon, tellement bon. Je te prie d'étendre ta main, et de bénir encore nos cœurs et nos vies, de nous accorder ta grâce, de nous visiter au nom de Jésus, de manifester ta bienveillance à l'égard de tous, s'il te plaît, étends ta main maintenant, manifeste-toi au Père, manifeste-toi, je t'en prie, et que celui qui est encore indécis, celui qui n'a pas pris la décision, soit comme confronté à la décision de Jacob, comprenant que Dieu l'a laissé libre, libre toute sa vie. Libre de faire ses choix, libre de prendre des décisions. Elles étaient bonnes, elles étaient mauvaises, elles présageaient d'un mauvais avenir, elles n'étaient pas assurées. Il y a eu tellement de mauvais choix, mais aujourd'hui tu es là pour pardonner les erreurs. Parce qu'à la croix du calvaire, tu pardonnes. À la croix du calvaire, tu prends nos erreurs. À la croix du calvaire, lorsque tu meurs à Golgotha il y a 2000 ans, tu prends nos fautes, tu prends nos misères, tu prends nos détresses. Et tu nous permets de mourir à nous-mêmes, afin de renaître comme toi tu es ressuscité d'entre les morts. Merci pour la croix. Merci pour le prix que tu as payé. Merci parce que tu délivres encore aujourd'hui. Et tu assures la paix et ta grâce.